écoute, vous êtes sur Aligre FM 93.1 et nous reprenons notre émission Philosophie au présent, la voix du Collège international de philosophie, une émission produite et animée par trois de ses directeurs ou ex-directeurs de programme, Nathalie Perrin, Michele Saporiti et moi-même, Stéphanie Ronchevski. Alors, Michele Saporiti n'est pas dans le studio avec nous aujourd'hui, mais il est quand même un petit peu présent puisqu'il nous a envoyé sa flânosophie, sorte de rêverie poético-philosophique que nous écouterons à la fin de l'émission. En attendant, Nathalie Perrin est bien là avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous nos auditeurs et merci de nous suivre sur Aligre FM.
Alors, notre émission s'inscrit dans le programme d'une semaine que Radio Aligre consacre entièrement au quartier populaire, la semaine du 2 décembre. Et aujourd'hui, notre question sera de savoir comment habiter un quartier populaire. Et pour y répondre, nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir un sociologue en urbanisme, Éric Hamelin. Bonjour et bienvenue Éric dans les studios de Radio Aligre.
Bonjour.
Voilà, alors...
Bonjour Éric.
Alors Éric, vous avez fait des études de sociologie à l'Université de Strasbourg en vous spécialisant dans l'urbanisme et le développement social urbain. Vous avez par ailleurs passé aussi un diplôme universitaire en cinéma et audiovisuel. Puis vous avez continué votre formation à Paris au Conservatoire National des Arts et Métiers, le fameux CNAM, en faisant un troisième cycle en urbanisme et gestion des collectivités locales. Après une longue expérience avec les collectivités et les organismes publics, vous gérez aujourd'hui à Paris une agence d'urbanisme, de sociologie et de concertation qui s'appelle Repérage Urbain. Vous pilotez différents projets avec des outils numériques très novateurs qui permettent aux populations de participer aux différentes politiques de la ville. Des outils numériques comme Carticipe, dont vous êtes à l'origine. Alors je crois que c'est une sorte d'invention assez géniale pour faire participer démocratiquement les habitants qui se projettent dans leur ville, depuis chez eux, depuis leurs petits ordinateurs. Voilà, donc on en reparlera au cours de l'émission. Éric, vous êtes également l'auteur de nombreux articles, mais aussi d'un livre coécrit avec le journaliste Olivier Rasmont, « La tentation du bitume, où s'arrêtera l'étalement urbain ?», paru aux éditions Rue de l'Échiquier en 2012. Mais aussi, plus proche de notre sujet, sur les quartiers populaires, vous avez contribué à plusieurs ouvrages collectifs, comme « Vers un urbanisme collaboratif » ou encore « 21 réflexions pour réparer la ville », édité par l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Enfin, vous êtes également enseignant, notamment à l'École d'urbanisme de Paris ou encore à l'Université de Rouen. Voilà, est-ce que, déjà ma présentation est correcte, fidèle, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, pour mes étudiants ingénieurs, je suis aussi enseignant à l'École spéciale des travaux publics, qui est une école d'ingénieurs du bâtiment et des travaux publics. Donc,
Voilà.
Voilà, voilà. Des bons matheux que j'essaie de sensibiliser à la sociologie urbaine, notamment à base de chiffres, pour arriver à accrocher leur intérêt.
Voilà. Voilà, on est au cœur du sujet. Et les quartiers populaires, depuis le 1er janvier 2024, la métropole du Grand Paris compte 175 quartiers prioritaires, ça fait pas loin de 1 100 000 habitants du Grand Paris. Alors pour commencer, avant même de réfléchir à la question de savoir comment habiter ces quartiers populaires, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Éric Hamelin, comment on définit un quartier populaire ?
Alors, définir un quartier populaire, si on le faisait dans un sens commun ou peut-être dans une approche historique ou internationale, d'ailleurs, on la baserait sans doute certainement au départ simplement sur des quartiers à vocation d'accueil de populations ouvrières. C'est quand même historiquement le cas d'un certain nombre de quartiers de l'Île-de-France, notamment au nord-est de Paris, autour des zones industrielles de la plaine Saint-Denis. Et c'est ce qui constitue un peu le point de départ du côté de la dimension populaire, sans doute, de la Seine-Saint-Denis, autour des industries qui se trouvaient le long des canaux, le long des voies ferrées. Mais alors, à mesure de l'avancement dans le temps et de l'urbanisation de l'Île-de-France, on a ensuite, en France, vous le savez, eu une politique de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale assez intensive, où on a construit, notamment pour héberger... à la fois les populations issues du baby-boom, à la fois des populations issues d'une immigration ouvrière, d'ailleurs, au départ, Et puis des populations paupérisées qui étaient en France et qui, après-guerre, se retrouvaient dans des conditions de logement déplorables. Mmh. On a construit les grands ensembles, les fameux grands ensembles qui étaient en grande partie des grands ensembles de logements sociaux, souvent construits dans les mêmes territoires que ceux qui étaient déjà ouvriers.
Oui.
Historiquement. Alors aujourd'hui, le problème, si on se place là directement, on passe en 2024, la population ouvrière, on veut dire que ça devient quelque chose d'anecdotique dans la population active française. Hein, la population dédiée à l'industrie, c'est sans doute un peu moins de 10% aujourd'hui de la population active et les ouvriers, proprement parler, sans doute encore moins. On a un pays, une nation qui s'est désindustrialisée.
Oui.
Néanmoins, on a des quartiers que je qualifierais d'ailleurs. Moi, je n'utilise pas tellement l'expression de quartier populaire. J'utilise plutôt l'expression de quartier défavorisé. C'est-à-dire des quartiers qui sont marqués par des revenus relativement bas par rapport à la moyenne ou aux médianes.
Oui, ce qui veut dire que le défavorisé n'est pas le populaire, alors, pour vous.
La notion me semble un petit peu... c'est-à-dire le côté populaire me semble un peu daté historiquement, mais j'affirme rien là-dessus, mais par rapport à cette idée de milieu populaire qui serait défini par des métiers, par des trajectoires, des communautés ouvrières et d'employés de base. Aujourd'hui, je pense que c'est bien plus complexe et bien plus mixé. On a dans des catégories et dans des quartiers défavorisés des gens qui sont aussi diplômés, qui sont dans des métiers... beaucoup plus diversifiés, qui peuvent être effectivement aussi assez éduqués, par exemple, et qui sont pas spécialement, voire pas du tout dans ce qu'on pouvait appeler à une époque la culture ouvrière. Alors le critère, vous parliez tout à l'heure des quartiers prioritaires politiques de la ville, dans le jargon professionnel des politiques urbaines, en raccourci, c'est les QPV, quartiers prioritaires politiques de la ville. Ça, c'est c'est typiquement un petit jargon des traditions administratives françaises qui consiste à délimiter des territoires pour y appliquer des politiques précises de soutien aux quartiers défavorisés, aux quartiers populaires. Mmh. Aujourd'hui, la délimitation de ces quartiers ne sont plus fondées que sur un critère de revenu. Alors qu'il était, c'est une relative nouveauté hein, à l'échelle des politiques d'urbanisme. C'était... à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem, qu'on a défini ce critère extrêmement simplifié. Auparavant, on avait des critères assez complexes pour définir les quartiers populaires ou défavorisés qui méritaient d'être ciblés comme prioritaires pour des investissements publics de soutien, qui étaient plus complexes, où on prenait en compte des critères de taux de logement social, de taux de famille monoparentale, parce que des familles monoparentales ont plus de difficultés financières. Souvent des femmes seules avec enfants, pour la famille monoparentale, si on simplifie. Taux de population étrangère, parce que ça peut signifier des difficultés scolaires, par exemple, plus grandes. Il y avait 5 ou 6 critères, dont une sur les bas revenus. On a simplifié ça à l'extrême. On est arrivé donc dans les années 2010 à un critère simplement de taux de population dite à bas revenus.
Donc ça a diminué ou augmenté le nombre de quartiers populaires, alors ?
Alors, ça les a augmentés, ça les a diversifiés aussi géographiquement. Parce que avec les espèces de critères complexes là en graphique un peu circulaire, où vous mettez plusieurs facteurs, c'était un peu limitatif et ça avait, si je visualise un peu la carte qui existait précédemment, qui avait tendance à focaliser davantage justement sur les grands ensembles en France, pas uniquement, mais quand même principalement. Et ce nouveau critère a permis de détecter finalement des lieux de paupérisation. Des quartiers qui étaient devenus ou qui étaient restés défavorisés, qui étaient un peu plus hors des radars, dans du tissu de bâti plus ancien, plus historique. Notamment, je donnerai un exemple simple, notamment dans les cœurs de villes moyennes françaises, des villes de 50 à 100 000 habitants, des agglomérations de moins de 100 000, moins de 150 000 habitants, où les cœurs de villes historiques, dans un certain nombre de cas, ont eu tendance à se paupériser. Alors là, en lien avec la dynamique de l'étalement urbain, on a plutôt dans ce genre de territoire, si on a les moyens, on s'achète une maison avec jardin, on ne reste pas dans un centre-ville avec des petits appartements historiques mal éclairés, sans ascenseur, etc.
Ouais, alors justement, c'est davantage le thème de votre livre coécrit avec Olivier Rasmont, La tentation du bitume. Et vous écrivez, page 107, « La spécialisation sociale des quartiers, qui a toujours existé, tend à s'accentuer aujourd'hui. Il n'est guère nécessaire de vivre dans une ville étalée pour ne fréquenter que des gens du même milieu. » partageant des idéaux similaires et des loisirs communs. On retrouve des comportements identiques en centre-ville, dans les cités de banlieue, dans les petites villes ou à la campagne. L'économiste Éric Morin parle de ghettoisation de la ville, aussi bien des quartiers riches que des quartiers pauvres. Donc déjà, ça veut dire que le ghetto n'est pas le propre du quartier populaire. Non. Et ce que j'aimerais interroger, c'est justement cette frontière entre quartier populaire et quartier non populaire, je ne sais pas comment les appeler. En tout cas, aujourd'hui, on parle beaucoup de la gentrification, qui est ce processus par lequel la population d'un quartier populaire fait place à une couche sociale plus aisée. Alors, est-ce que ça veut dire que les quartiers populaires tendent à disparaître? Quelle est vraiment leur révolution? Et est-ce que vous pensez d'ailleurs que les habitants, eux, de ces quartiers ont envie d'y rester ou ont envie de les quitter, ces quartiers?
Alors là, il y a énormément de questions. on va peut-être juste reprendre le premier point sur le fait qu'il y ait en parallèle des quartiers qui ont tendance à être des ghettos de riches, on pourrait dire. Hein, ou comme disaient les époux Pinson-Charlot, qui étaient des sociologues spécialisés dans la sociologie des quartiers riches, des ghettos du Gotha.
Ah oui.
Oui, vous entendez donc ghetto, des gens qui en fait se renferment sur eux-mêmes et ne cherchent pas finalement à avoir des contacts avec ce qu'on pourrait appeler aussi une mixité. Voilà.
En tout cas, c'est de facto ce qu'on peut constater dans certains quartiers. C'est-à-dire qu'il y a une extrémisation de la spécialisation sociale, on va dire. D'accord. Que ça soit intentionnel ou que ça soit par naissance, on est dans une dynamique comme ça. Et ça peut exister aux deux extrêmes.
Tout à fait.
Donc, les fameux ghettos du Gotha, à Paris ou en Ile-de-France, c'est des quartiers qui ont généralement, qui ne sont pas du tout dans une dynamique d'embourgeoisement, qui ont été construits comme des îlots de bourgeoisie, comme par exemple la plupart de la commune de Neuilly, le 16e arrondissement, Saint-Germain-en-Laye, enfin des choses qui peuvent vous venir tout de suite à l'esprit.
Tout à fait.
Ou même le Versailles-Rive-Gauche, centre-ville, et en contraste avec... alors à Versailles, en l'occurrence, il y a aussi une partie quartier populaire sur la base d'un grand ensemble HLM. Et de l'autre côté, c'est vrai que il y a eu pendant longtemps une tendance à une spirale plutôt d'aggravement de la paupérisation, notamment dans les grands ensembles français, qui, voilà, avec une dynamique multiple, c'est assez complexe, mais à la fois avec la désindustrialisation, donc une perte d'emploi, une augmentation du chômage dans les catégories dites historiquement populaires, et puis une dégradation de l'image de marque de ces quartiers, de peut-être de l'ambiance sociale, relationnelle, scolaire. Tout un tas de phénomènes qui ont fait que aussi des personnes, même habitant ces quartiers, mais étant un peu accédant classe moyenne, essayaient d'en partir le plus vite possible dès qu'ils en avaient les moyens. Et donc finalement, des poches de pauvreté qui se sont pendant longtemps plutôt approfondies en termes de pauvreté de ce côté-là. Et d'où derrière tout ce processus, qui a maintenant quelques décennies déjà, de tentatives de politique publique, de quartiers prioritaires politiques de la ville pour contrer ces dynamiques du côté des pauvres.
Oui.
Alors, on est en France, on est dans un pays... moi, j'ai tendance à dire que toute l'Europe continentale est dans une culture depuis 70-80 ans, depuis l'après-guerre, dans une culture que j'appelle social-démocrate, c'est-à-dire de marché soumis à un tas de normes et de règles pour essayer d'équilibrer des dynamiques extrêmes. Et donc, on a une politique dont je pourrais reparler. On reparlera sûrement sur les quartiers populaires, qui est assez importante, diversifiée. Mais on a également une politique sur nos fameux ghettos du Gotha ou nos quartiers qui ont été historiquement plutôt exclusivement riches. Puisqu'on a, par exemple, très simple, il y a la loi SRU Solidarité et Renouvellement Urbain de 1999, une loi connue des urbanistes pour différents sujets, mais... En son article 55, qui certains connaissent parce qu'il a été souvent débattu entre élus locaux et à l'Assemblée nationale, cet article 55 vise à imposer aux communes, aux territoires qui n'ont pas ou peu de logement social, donc réservé à des bas revenus, imposer d'en construire.
Oui,
ce qui donc une ville comme Neuilly, on a toujours que, je crois qu'ils atteignent maintenant péniblement 4%, mais selon la loi qui a été révisée une fois, l'État a une exigence vis-à-vis de cette commune de viser 25% de logement social. Et c'est valable pour toutes les communes des agglomérations françaises.
Ah oui, donc on est
à partir
très loin,
de 50 000 habitants. Donc c'est même valable pour les villes moyennes où c'est pas très applicable en réalité.
Mais il y en a qui les dépassent ?
Bien sûr. Bien sûr, il y en a qui les dépassent. Il y en a beaucoup, en fait, qui les dépassent. Mais si on regarde à l'échelle des communes, en Ile-de-France, elles sont plutôt dans l'Est, clairement. Ouais. Il y a quelques petites poches dans les Hauts-de-Seine et... En Val-de-Marne aussi, il y en a un peu plus, mais c'est plus des poches Tandis que quand on passe, par exemple, en Seine-Saint-Denis, hein, qui peut être vu aussi un peu comme un, en caricaturant, hein, mais un ghetto géant, parce qu'à l'échelle globale de la Seine-Saint-Denis, on a justement des revenus médians qui sont presque moitié moindres que ceux des Yvelines, par exemple, hein, oui. On parlait de Versailles. Si on regarde simplement cette fameuse statistique du revenu médian, je passe un peu les détails de calcul, c'est un revenu médian en fonction du nombre d'enfants, etc. Mais admettons que ça soit valable comme critère de calcul de revenu. Donc la Seine-Saint-Denis, c'est, si vous voulez, si on simplifie, c'est moitié moins riche ou deux fois plus pauvre que les Yvelines, en tant que département en entier.
Et, c'est énorme.
Voilà. Et à l'intérieur de ce département, on a naturellement, ce qui maintient cette différence, c'est qu'on a des quartiers qui ont pu être très tôt des quartiers ouvriers, mais et derrière, toute la construction de logements, de grands ensembles, de logements sociaux massifs, des années 50 aux années, au milieu des années 70. Et on a des taux de logements sociaux qui sont plutôt de entre 35 et 45% sur à peu près toutes les communes de la Seine-Saint-Denis, hein, pratiquement. Deux, trois exceptions de près qui sont des îlots de communes pavillonnaires vaguement bourgeoises ou en tout cas un peu classe moyenne supérieure. Attention, ça c'est à l'échelle communale et à l'échelle départementale. La réalité de ce qu'on appelle, ce que un certain nombre de sociologues ou géographes appellent la ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire la tendance à avoir des quartiers très distincts socialement, économiquement. Si, même en Seine-Saint-Denis, si je vais regarder dans le détail, en réalité, ça peut être extrêmement différent quartier par quartier.
Oui, oui.
On a aussi une micro, micro-ségrégation.
Saint-Denis, c'est pas Montreuil, par exemple.
Oh, mais c'est même, c'est plus dans le détail que ça.
Ah oui, c'est même quand dans Montreuil
voilà.
même.
Y a, oui, voilà. Quand on arrive à avoir des données statistiques un peu fines, grâce aux impôts.
Même d'une rue à l'autre dans Paris.
Alors ça peut être d'une rue à l'autre. C'est des îlots, si vous voulez. Vous pouvez avoir, même à, je vais prendre Sevran. Une commune qui a été connue un peu pour ses faits divers à une époque. Une commune assez pauvre, globalement, qui est plutôt dans cette médiane de la Seine-Saint-Denis, donc des revenus en moyenne très bas, mais on a beaucoup de logements sociaux, mais qui sont concentrés dans le nord-ouest, de la commune, sur le secteur dit des Bodottes.
Oui.
Et au sud de la gare, on a un petit tissu uniquement pavillonnaire qui, lui, a des revenus deux fois plus élevés, en fait, que cette médiane du secteur HLM, si vous voulez, du secteur social.
Oui, oui.
Alors, nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1, une radio libre et associative de bénévoles qui ne vit que grâce à vos dons, chères auditrices, chers auditeurs. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre site aligrefm.org pour faire durer cette belle aventure qui vous accompagne quand même depuis plus de 40 ans. Voilà, pour l'heure, vous écoutez Philosophie au présent et nous recevons Éric Hamelin, sociologue. Et nous réfléchissons à la question de savoir comment habiter les quartiers populaires. Alors Nathalie, peut-être tu as une question particulière.
Oui, alors moi j'aimerais bien que vous... Alors j'avais peut-être en fait deux questions, parce qu'on vous a présenté comme sociologue. Et moi j'aimerais bien que, d'abord qu'on rappelle un peu ce qu'est la sociologie. Mais il faut penser à des auditeurs qui ne savent... C'est un terme qu'on utilise beaucoup et on ne sait pas finalement ce que ça recouvre. Et surtout, à partir de cette définition de la sociologie, quelle est, vous, votre, je dirais, posture intellectuelle et pratique de sociologue? Parce qu'il s'agit, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu de vous, hein, je conseille aux auditeurs d'aller voir aussi un petit peu sur YouTube. Voilà, on vous entend parler à propos notamment de l'étalement urbain, hein, où vous êtes spécialiste de la question. Finalement, le travail que vous faites a-t-il une visée politique? Et qu'est-ce qu'on peut entendre par politique? Puisque... les quartiers populaires ou la question du populaire, finalement, au centre du terme populaire, il y a peuple. Bon. Qu'en est-il de ce peuple qui semblait peut-être à une époque capable de vivre ensemble dans la diversité? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous nous avez dit aujourd'hui on parle pas tellement de quartiers populaires, mais plutôt de quartiers défavorisés, au sens où le défavorisé, ça peut être aussi celui qui a un doctorat en sciences humaines, qui côtoie la femme de ménage ou le balayeur ou l'employé de la mairie de Paris. Voilà. Alors, question un peu vaste, mais oui. C'est quoi votre position de sociologue? La sociologie est-elle pour vous, a-t-elle pour vous une dimension politique à laquelle?
Oui.
relativement à cette question du populaire.
Alors, une dimension politique, oui, forcément.
Oui.
De la même manière que les sciences économiques, on va dire les sciences sociales, ont quand même vocation à essayer d'éclairer la réflexion sur le devenir de la cité. Bien sûr. Et alors, il se trouve que moi, dans ma pratique professionnelle, je reviens à votre deuxième question. Vos trois questions. Votre deuxième question. Dans ma pratique professionnelle, de toute façon, je travaille avec le politique. Moi, mon métier aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années, avec ma spécialité des territoires et des villes, ça consiste à intervenir auprès des communes et des regroupements de communes, c'est-à-dire les communautés de communes, les communautés d'agglomération, etc. Donc j'interviens auprès de structures qui sont très politiques, administratives aussi, et de gestion, c'est des petites structures, si vous voulez, par rapport à l'État. Donc on est vite en rapport et en relation avec les élus, qui ont des préoccupations aussi de politique, de bien faire pour leurs habitants, hein, puis dans une visée bien naturelle électorale aussi. Et de toute façon, les interventions que je mène, elles ont vocation à essayer d'améliorer justement la décision publique, les projets urbains, du point de vue des habitants. Puisque moi, dans mes interventions, ce que je vais apporter par rapport à des fonctionnaires et des urbanistes et des ingénieurs et des architectes et des paysagistes, c'est d'accentuer la prise en compte et l'écoute des usagers, des habitants d'un territoire par rapport à ce qu'on est en train de concocter et qu'on concocterait d'ailleurs dans leur dos sinon.
Oui.
Et donc je vais organiser par différentes méthodes. Alors, soit par des démarches d'enquête. Oui. Là, on est dans une démarche de sociologie. On en vient un petit peu à définir ce que c'est que la sociologie. Donc, votre première question. Donc, soit par des démarches d'enquête, soit par des démarches d'accompagnement du dialogue public qui est en partie obligatoire sur un certain nombre d'aspects de développement de projets urbains. Oui. Et j'en viens avec première question sur peut-être essayer de définir la sociologie parce que je vais essayer de vous raconter en deux mots ce que je pose comme colle à mes étudiants ingénieurs. Je leur demande, à votre avis, c'est quoi la sociologie? Et je leur, pour dynamiser mon cours aussi à ces ingénieurs, c'est devant des amphithéâtres, donc j'ai beaucoup, beaucoup d'étudiants à la fois, hein, 150 à peu près en même temps. Je leur fais des petits quiz pour les motiver. Alors, donc, je leur propose plusieurs définitions de la sociologie et je leur demande quelle est la meilleure définition. Et il y en a une qui est la sociologie est une sous-discipline de la philosophie.
Ça doit pas être la bonne.
Mais en fait, je leur donne plusieurs solutions. Il y en a une autre qui est la sociologie est une science qui vise à. Alors je sais plus parce que c'est des définitions que j'ai prises chez des auteurs, des sociologues comme Raymond Aron, qui est un historien de la sociologie en étant sociologue lui-même.
Et philosophe.
Et voilà. Et alors, la sous-discipline de la philosophie, je leur donne quatre bonnes réponses. Et en fait, il y en a trois qui sont bonnes dans ce que je leur propose.
Oui, bah oui.
Dont sous-discipline de la philosophie, si on se place d'un point de vue historique.
Oui.
D'un point de vue historique, ceux qui ont construit le concept de philosophie, la démarche, les différentes méthodes, la plupart de Bourdieu à Raymond Aron, en remontant à Émile Durkheim, Max Weber et d'autres, donc je ne sais plus lesquels, de Raymond Boudon, qui était un sociologue moins connu que Bourdieu, mais de la même génération que j'aimais beaucoup, venaient tous d'une agrégation de philosophie.
Mm. Tout à fait, mais ils se sont construits contre elle, c'est ça. Alors, qui est intéressant.
Oui.
Ce qu'ils reprochent à la philosophie, c'est précisément souvent son abstraction et son manque d'intérêt pratique et matériel.
D'où la deuxième définition que je soumets à mes étudiants, qui est quelque chose du type, alors je ne sais plus la formulation exacte, mais qui est quelque chose du type, la sociologie est une science qui vise à prévoir les comportements, enfin quelque chose d'extrêmement prédictif, qui serait de type description d'une science exacte. Et ça, c'est la seule mauvaise réponse que je leur mets dans les définitions, parce qu'on est... La réalité, c'est que... Et une des bonnes définitions, qui est aussi une définition de Raymond Aron, consiste à dire plutôt c'est une science qui vise à essayer d'établir, on est plein de conditionnels, des régularités ou du moins des tendances, et voilà, une formation extrêmement... c'est-à-dire que... Et c'est effectivement, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression de pratiquer mon métier et ma spécialité. C'est-à-dire qu'on essaye de tirer des tendances... Et c'est ce qu'on va faire, de tendances qui peuvent éclairer la décision politique sans lui donner des pronostics ou des divinations sur ce qui peut se passer en fonction de tel ou tel choix politique ou tel choix de construction, dans mon cas, de construction de projet d'aménagement, d'infrastructure.
Oui, on est dans les sciences humaines, quoi. On est dans les sciences humaines, c'est pour ça, quoi.
Une grande, grande part qui va rester aléatoire, mais on essaie d'éclairer en ayant quand même une démarche que moi, j'essaie d'être assez exigeante, on va dire, qui vise à se placer effectivement dans cette logique de Raymond. Alors, dans une logique scientifique, dans une exigence épistémologique au moins. Voilà.
Alors, pour creuser encore cette, la spécificité de ce travail, je me suis appuyée sur un livre d'Alain Cambier, du philosophe Alain Cambier, « Qu'est-ce qu'une ville ?» paru chez Vrin en 2005, qui lui-même s'appuie sur les textes d'Heidegger, essais et conférences, un texte qui s'appelle « Bâtir, habiter, penser ». Et il montre justement qu'habiter et se loger, ce n'est pas du tout la même chose, car dans l'idée d'habiter, il y a l'idée de faire un monde, un chez-soi qui nous prolonge avec l'idée d'une habitation qui serait plus qu'une simple construction, qui serait justement la prise en compte d'une certaine qualité de vie. Alors un peu plus loin, dans son ouvrage, Alain Cambier s'appuie sur un texte de Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle, pour distinguer le travail de l'urbaniste de celui de l'architecte. Et il dit « L'architecture s'en tient à une échelle microsociologique, alors que l'urbanisme a une prétention macrosociologique. L'objet de l'architecture demeure celui de l'immeuble, alors que l'urbanisme porte sur la société dans son ensemble. Alors que l'architecture relève de l'art, l'urbanisme se définit comme une science, celle de l'aménagement rationnel des infrastructures et des zones d'habitation de la ville. » Alors, vous nous l'avez dit, vous avez beaucoup travaillé avec des architectes, justement, et on voit que ce n'est pas du tout le même rapport à l'espace. Finalement, pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de construire des immeubles, des villes, pour les rendre habitables, puisque c'est notre question? Et donc, au-delà de la différence sociologue-philosophe, quelle serait davantage la distinction entre urbaniste et architecte? Et est-ce que vous êtes d'accord avec le propos de ce philosophe? Distinction.
Je suis complètement d'accord et ça nous ramène un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que le côté macro-sociologique d'un projet dit d'urbanisme qui va regrouper à la fois des immeubles, des habitations et tout un tas d'autres choses, des voiries, des espaces publics, des espaces verts, des équipements, des commerces, des lieux de travail, c'est par définition, ça concerne énormément de gens et ça ne concerne personne individuellement. Et donc, ça en fait un objet extrêmement politique, macro-sociologique, d'où le lien entre la sociologie et la politique. C'est-à-dire que ça nécessite d'être en mesure de trouver les procédures pour effectuer des choix collectifs. Et alors, dans un historique de la construction de la ville, on a quand même eu des périodes de l'histoire où finalement la construction de la ville se faisait dans un duo entre le prince et l'architecte.
Malgré tout.
C'est-à-dire, c'est devenu un objet politique à mesure d'une démocratisation de plus en plus importante et de plus en plus appliquée à de plus en plus de domaines. Mais je dois dire que la démocratisation de l'urbanisme, finalement, je crois savoir, avec ma connaissance de l'histoire de la discipline, qu'elle est relativement récente. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore, disons, une quarantaine d'années, on était quand même essentiellement sur quelque chose qui ressemblait encore au duo du prince et de l'architecte, qui était le trio de l'élu, du technocrate, enfin de l'expert, souvent ingénieur des ponts, d'un architecte, souvent effectivement pour donner un geste ou un coup de crayon pour concevoir une ville idéale, conçue en chambre à trois personnes. Effectivement, moi je considère que c'est quelque chose qui donne beaucoup d'effets pervers, et on a la prétention dans notre travail...
Des utopies.
Des utopies, ça peut être pas mal, mais des utopies pour tester des pistes de réflexion, mais pour mettre en œuvre et fabriquer des choses qui sont à partir de kilotonnes de béton qui vont rester figées dans l'espace pendant des décennies en général. Ça a quand même des conséquences, si vous voulez, qui sont peut-être appel à encore plus de démocratie que d'autres sujets qu'on peut redétricoter à mesure des élections successives. Là, si vous construisez une ville ou vous transformez un quartier populaire, pour revenir à notre sujet, à la hache et en vous construisez du béton. Enfin, vous voyez, nos grands ensembles des années 50, ils sont quand même encore là pour l'essentiel, même si on les démolit, on les reconstruit, on les transforme. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement long à transformer.
Tout à fait.
D'où l'intérêt d'avoir une réflexion collective plus large, et d'où une bonne partie de mon travail aujourd'hui qui consiste à essayer d'intégrer le plus grand nombre de personnes et dans une forme de, non seulement de démocratie, mais je dirais même plus simplement pour ceux qui ne sont pas des passionnés de l'idéal démocratique, juste d'intelligence collective.
Pour
concevoir des projets plus subtilement à l'échelle des populations concernées.
Alors, chères auditrices et chers auditeurs d'Aligre FM, c'est l'heure de notre pause musicale et je vous propose d'écouter, pour illustrer notre thème des quartiers populaires, une reprise du célèbre Saint-Saint-Denis Style d'NTM par un groupe de trois super filles, les L.E.G., qui sont vraiment originaires de Saint-Denis et qui sont accompagnées dans ce morceau de Grand Corps Malade. Voilà, tout de suite.
Pour la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Saint-Denis, ville sans égale, Saint-Denis, ma capitale, Saint-Denis, ville peu banale.
Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute.
Halal.
J'espère qu'on t'a convaincu. Et si tu nous traites de parisienne, je t'enfonce mon archet dans...
C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle partout et de retour au Artout. C'est parti, ça vient de Saint-Denis, direct. Issu de la génération funky, taquini, pas de soucis. Non, pas de chipi ici, pas de chichi si tu dérapes, on te
chie dessus.
Trop de blabla,
trop de plagiat.
Trop de merde sont étiquetés, peu ras, mais c'est comme ça qu'on nique tout.
Le bénéf, le business,
mais c'est pendant qu'on laisse couler que les pénales s'engraissent.
Et ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop, et tout cela je les stoppe à base de pop, 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 pop.
Sen, sen, is there.
Tout donc on gile les pare-balles à base de pop, 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 pop. Et pour le hip-hop, je développe
la scène Saint-Denis. C'est la bombe bébé, et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Saint, Saint, is there.
Fous donc ton gilet pare-balles à la base de pop, 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 pop. Et pour le hip-hop, je développe
la scène Saint-Denis. C'est la bombe bébé, et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Saint-Denis, Saint-Denis, fond, fond, fresh. Saint-Denis, Saint-Denis, fond, fond, fresh.
C'est la bombe bébé
bombe, ça vient de Saint-Denis.
Tu reconnais la race, alors fais-toi c'est ça tout petit.
Quand le double R déboule pour te mettre l'enfer,
tu crois que tu les as grosses,
mais teste pas
le R de tonnerre.
L'expert de la maison mère,
à qui tu la feras pas à l'envers.
Les grosses éclairs, je suis slick sous papa.
Big up à moi-même.
Tu trouveras pas mon pareil à des kilomètres, c'est ça que t'aimes chez moi.
Je me la raconte pour 9-3, faut que je mette les MC aux abos.
Je suis en mission mais je lâche pas.
C'est clair que je vis que pour ça,
et puis que je pense que comme ça. Je bouge pas depuis le temps que j'en vois, je balance des mondes pour toi. Sans me vanter, je peux chanter
que je roule avec un trou déjanté.
Prends tes jambes à ton cou, Saint-Saint-Denis ou
Saint-Saint-Denis.
Fous donc ton gilet pare-balles à la base de pop, 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 pop.
Et pour le hip-hop, je développe
la Saint-Saint-Denis. C'est la bombe bébé,
et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Saint-Saint-Denis.
Fous donc ton gilet pare-balles à la base de pop, 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 pop.
Et pour le hip-hop, je développe
la Saint-Saint-Denis. C'est la bombe bébé,
et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Saint-Saint-Denis.
Fous donc ton gilet pare-balles à la base de pop, 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 pop.
Et pour le hip-hop, je développe
la Saint-Saint-Denis. C'est la bombe bébé, et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Alors, chers auditeurs d'Aligre FM, vous écoutez sur 93.1 Philosophie au présent et nous sommes en compagnie du sociologue urbaniste Éric Hamelin pour comprendre comment habiter les quartiers populaires. Alors, tout d'abord, Éric, peut-être une réaction par rapport à cette chanson. Est-ce que vous pensez qu'il y a des villes symboliques, des quartiers populaires comme Saint-Denis? Est-ce qu'on peut parler du coup pour ses habitants de déterminisme? Voilà, est-ce que Saint-Denis, c'est vraiment, comme le dit la chanson, de la bombe bébé?
Oui, alors déjà, c'est une chanson donc, de NTM. Historiquement, à la base, je ne me souviens plus en quelle année, mais dans les débuts, plutôt le début des années 90, hein, c'est déjà assez ancien.
Ouais.
Et qui, pour moi, est symbolique d'une chose, c'est à un moment donné où notre quartier populaire géant de la Seine-Saint-Denis revendique une certaine fierté de culture populaire, ou quelque part, qui n'est plus la culture ouvrière, hein, mais qui est autre chose, quoi, qui est un mélange de, notamment, l'aspect caractéristique de la Seine-Saint-Denis et d'un certain nombre de quartiers populaires en France ou quartiers défavorisés, qui est un mélange de populations et d'origines diverses, des différents territoires, principalement des différents territoires historiquement de l'Empire français, hein. Mm-hmm. C'est-à-dire des pays francophones pour l'essentiel et quelques autres communautés aussi qui s'y sont mélangées au fur et à mesure du temps, qui retrouvaient d'ailleurs ce qui existait déjà en Seine-Saint-Denis et dans la plupart des quartiers ouvriers historiques français où il y avait là, une population également d'origine étrangère, mais avec des vagues de migration précédentes qui étaient plus européennes, hein, les Italiens, puis les Espagnols, puis les Portugais. Et ce que revendique, je pense, à un moment donné, enfin, ce que fait émerger cette chanson, c'est ça, c'est une nouvelle forme de fierté du quartier populaire qui n'est plus, peut-être plus basée sur la culture ouvrière et la fierté du fabriqué, du syndicalisme, du communisme, mais basée sur la fierté du melting pot, des origines, et du fait que ça génère quelque chose de tout à fait nouveau, sans doute, sur le plan culturel.
Oui. Alors, on se disait hors antenne que on avait manqué une partie de la réponse que vous deviez nous faire par rapport à la question de Stéphanie sur la gentrification. Oui. Vous vouliez revenir là-dessus
Oui, alors, c'est parce que c'est intéressant, je pense, d'aborder aussi cette question des quartiers défavorisés et éventuellement de l'autre côté, de l'autre partie de la ségrégation spatiale, les quartiers bourgeois, dans leur dynamique d'évolution. Et or, dans le contexte français, j'ai commencé à en parler tout à l'heure du côté des ghettos de riches, si on peut aussi en caricature, qui se sont vus imposer depuis un peu plus de 25 ans maintenant, progressivement, d'intégrer, d'inclure du logement social.
Avec d'accueillir, des réactions.
Alors, avec des réticences, avec parfois certains qui payent des amendes, etc. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement, mais qui a, un, le mérite d'exister, et deux, a quand même des effets très... très surprenant et assez massif dans certains contextes. Par exemple, à Paris, on est passé d'un taux de logement social qui était inférieur à 15%. On a aujourd'hui plus de 20% de logements sociaux dans Paris. Oui. Parce que c'est une commune qui, depuis 2001, essaye de, plutôt que de louvoyer, de négocier avec les préfets, de payer des amendes, essaye de mettre en œuvre, malgré le manque d'espace,
dans un
territoire qui est très bâti.
C'est une volonté politique.
Oui, c'est aussi quelque chose qui s'est inscrit dans la loi et qui s'inscrit, à mon sens, dans une culture longue. Et qui est de l'autre côté l'évolution des quartiers populaires, je le disais aussi, on l'a dit en commençant, et bénéficie de politiques particulières aussi pour essayer d'améliorer ce qu'on évoquait dans l'habité tout à l'heure, c'est-à-dire au moins déjà le cadre de vie, la qualité de vie. Donc...
Est-ce que vous annoncez un cassage de la gentrification ? Donc, même pas.
c'est pas ça. C'est que peut-être il faut qu'on vienne sur qu'est-ce que c'est que la gentrification,
voilà,
bien cette définition.
Oui.
À ma connaissance, c'est un concept qui a été inventé par une sociologue britannique qui s'appelle Ruth Glass, dans des observations qu'elle a menées sur Londres dans les années 1960. Elle était, je l'ai appris récemment d'ailleurs, elle était quand même un peu inscrite dans un courant marxiste, donc elle avait une approche... disons critique de toute façon de la bourgeoisie, mais néanmoins, je dirais que son observation était certainement assez juste et applicable dans un contexte anglo-saxon. Et son concept a été beaucoup repris en Amérique et décrivait en fait un phénomène d'embourgeoisement d'un quartier pauvre ou paupérisé d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on partait pas forcément d'un quartier historiquement ouvrier qui va s'embourgeoiser, mais éventuellement d'un quartier qui s'était d'abord dans un premier cycle paupérisé à cause de l'exode des classes moyennes et bourgeoises vers les suburbs et leurs jolies maisons, des centres-villes qui s'étaient paupérisés, et puis qui, dans une certaine dynamique de l'histoire, alors on ne sait pas comment, pourquoi, à quel moment, ça dépend des territoires et ce n'est pas toujours au même moment, vont reprendre une dynamique inverse et se réembourgeoiser. Et ce qu'elle décrit, c'est surtout une espèce d'embourgeoisement par étapes, avec cette idée qu'on peut retrouver dans d'autres territoires, d'abord de pionniers du réenrichissement ou du réembourgeoisement d'un quartier.
C'est le cas de Harlem, semble-t-il.
Exactement, on peut l'appliquer, elle l'applique surtout au nord, nord-est du centre de Londres, à partir du quartier Soho, etc. Mais ça peut s'appliquer plus tard dans l'histoire, c'est plutôt à partir des années 80, par exemple, un quartier très connu par le cinéma et tout un tas d'autres biais de Harlem à New York.
Oui.
Où on a des populations, et alors le descriptif et le phénomène qu'on a pu voir se reproduire plusieurs fois, ça va être des populations plutôt intellectuelles, milieux culturels, etc., qui vont acheter pour avoir une typologie d'habitat, de loft, des grands espaces, des ateliers, et puis qui ont moins peur, on va dire, que d'aller s'installer en tant que poisson pilote dans un quartier populaire parfois très dégradé.
Oui.
Qui ont moins peur que des vrais bourgeois, disons, voilà, de tradition, de milieu, qui travaillent dans la banque, etc. On peut dire qu'on peut observer une partie d'un phénomène un peu équivalent dans l'approche Seine-Saint-Denis. On le connaît, vous connaissez certainement certains amis qui sont des communes quand même initialement assez paupérisées, Montreuil et Pantin.
Oui, tout à fait.
Et qui ont leur petit secteur un peu micro-industrie où des gens ont effectivement acheté pour construire des lofts. Et c'est effectivement beaucoup des milieux du cinéma, du théâtre, de plutôt culturel. L'idée de Ruth Glass et de beaucoup de sociologues américains généralement marqués à gauche qui ont essayé absolument de détecter ce phénomène de gentrification se veut un truc en plusieurs étapes où à la fin on arrive finalement pratiquement à un embourgeoisement généralisé et où il n'y a plus de place pour les classes moyennes ou populaires.
Tout à fait.
Par un effet qui va avec de spéculation financière, immobilière, les prix d'achat augmentent. Et donc si les prix d'achat augmentent, les loyers augmentent, etc. Et en fait, tout ça chez nous, que ce soit à Montreuil, à Pantin ou même chez moi dans le 10e arrondissement à Paris, ça ne peut pas se passer de la même manière. C'est-à-dire, je le dis, il peut y avoir des prémices de quelque chose qui peut ressembler en termes de dynamique. On a des branchés qui peuvent arriver dans des quartiers populaires. Ça peut être vrai aussi en Allemagne, à Kreuzberg ou des quartiers de Berlin-Est. Mais chez nous, comme en Allemagne d'ailleurs, pour des tas de raisons juridiques et de cadres juridiques structurés, stratifiés au fur et à mesure des décennies, c'est impossible. Déjà, le taux de logement public en France, même avec nos taux de... Même si on n'atteint pas partout les 25%, on est au niveau national. On a 16% de logement public aux États-Unis, on est en dessous de 2%.
Ouais.
Donc déjà, et dans tout, avec ce que j'évoquais, la loi SRU qui impose de construire des logements sociaux dans tous les quartiers, même en voie d'embourgeoisement, sur une base, disons, de tissu d'habitat privé où la spéculation serait possible, on est limité par le fait qu'en même temps, on rachète, par exemple, la ville de Paris rachète beaucoup de logements dans le 10e ou dans le 20e arrondissement d'habitat privé un peu délabré pour les passer en statut logement social.
Oui, oui.
Et puis, il y a une multitude de lois qui se sont rajoutées. En plus, ces dernières années, on va de plus en plus vers un système extrêmement contrôlé de tentatives de rééquilibrage ou de maîtrise un peu des phénomènes extrêmes de paupérisation ou d'embourgeoisement, puisqu'on a rajouté derrière le DALO, le droit au logement opposable, qui a quand même un impact parce que ça s'applique à une relativement petite échelle. Et on a par exemple dans Paris Nord-Est, on a beaucoup d'hôtels aujourd'hui, des hôtels un peu miteux qui sont en gros loués entièrement par l'État aujourd'hui pour loger des femmes seules en difficulté, quelques types de ménages. On a l'encadrement des loyers.
Tout à fait.
Qui existe depuis quelques années. Donc certains critiquent l'inefficacité de la mesure, mais enfin elle existe, on ne peut pas dire ça dans aucun pays anglo-saxon.
Oui.
Elle existe à Paris, elle existe à Montreuil, elle existe à Pantin, elle existe à Lille, à Bordeaux, à Montpellier. Elle peut s'étendre à la demande des communes à Strasbourg ou à Lyon, qui ne l'ont pas encore appliquée mais qui y réfléchissent. L'encadrement des loyers fait que c'est un vrai effet de cliquet pour interrompre, pour limiter la spéculation immobilière qui pourrait venir d'un mouvement de branchitude de tels quartiers historiquement pauvres ou paupérisés. Ça permet une limitation, en tout cas une maîtrise, une modération, on va dire, d'une évolution qui partirait vers un embourgeoisement total à un moment donné d'un endroit qui aurait été historiquement pauvre. Il y a encore tout un tas d'autres dispositifs.
Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que vous dites qu'en fait, si on veut essayer, moi je reprends le terme un peu classique de populaire parce que philosophiquement je l'aime beaucoup. Pour moi, le populaire n'est pas un gros mot, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous nous avez dit, paradoxalement, de nous dire que aujourd'hui on parle moins de populaire que de gens qui sont défavorisés. Mais ce défavorisé-là, il est aussi multiple. On n'est plus, c'est plus une classe sociale reconnaissable, le milieu ouvrier, etc. Bon, oui. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites en fait que pour lutter contre cette gentrification, et la France aussi en est un exemple, c'est une politique, ce sont des lois qui finalement vont imprimer, on pourrait dire une idéologie, si on reprend un terme un peu classique, de il faut qu'il y ait de la mixité, il faut qu'il y ait du mélange, il faut éviter que le promoteur, finalement, ait la main sur nos habitats. Je reviens aussi sur la question de Stéphanie tout à l'heure, où tu nous parlais de qu'est-ce que c'est qu'habiter, et aussi sur ce que vous nous disiez, Éric Hamelin, c'est-à-dire que vous travaillez avec les gens qui habitent dans ces lieux-mêmes, et vous travaillez auprès de politiques avec cette parole que vous recevez aussi, et ces enquêtes que vous faites, et ce chiffrage-là. Donc, finalement, pour arriver à s'en sortir, il faut la force du politique alliée à ce peuple qui vit là aussi, et qu'il faudrait défendre, en fait.
Oui, alors, D'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose que vous disiez. Sur...
Alors, rapidement, parce qu'on va enchaîner les...
Ah oui, vous parliez de... Pour lutter contre la gentrification, il faut effectivement une action politique. Mais moi, je vais un peu plus loin. Je pose la question, faut-il lutter contre la gentrification ? Parce que ça dépend de quoi on parle, justement, dans quel contexte.
Ouais. Oui,
est-ce que c'est réellement de la gentrification et contre quoi on veut lutter ? On a en France, dans notre, la culture des urbanistes, il y a un idéal de mixité sociale.
Oui.
Donc, que vous évoquiez, la mixité sociale, c'est quelque chose qu'on vise partout, en fait. D'où l'idée d'une loi qui va imposer du HLM là où il n'y en a pas, mais aussi qui va pousser à financer de la transformation de HLM en logement un peu plus bourgeois volontairement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'on gentrifie ou qu'on tente d'embourgeoiser volontairement, notamment ces grands ensembles qui étaient extrêmement paupérisés. On tente d'arriver à une moyenne de population qui soit un peu plus mixte, mais plus vers le haut, donc une forme d'embourgeoisement modéré. On essaye d'avoir un peu des petites classes moyennes à nouveau. Et de même, on peut se poser la question du point de vue des habitants qui sont dans des quartiers qui ont été à un moment donné paupérisés et qui bénéficient, je vais dire, d'un certain embourgeoisement. Est-ce que ça leur déplaît ? Moi, ce que je constate dans la réalité des faits, c'est que ça, dans la plupart des cas, la plupart de la population, on est plutôt très satisfaite pour un tas de raisons.
L'arrivée de certains commerces,
l'amélioration éventuellement du niveau moyen de la structure scolaire, malgré tous les problèmes d'écoles privées, d'évitement, mais aussi même le bénéfice immobilier qui bénéficie aussi à des gens qui sont extrêmement issus de classes populaires. Moi, j'en connais personnellement un certain nombre de cas et j'en ai rencontré aussi.
Alors,
de gens qui, ayant acheté un logement à une époque dans un quartier paupérisé où ça valait rien, vont bénéficier de l'aide à la rénovation de leur logement et l'apport financier aussi de classes moyennes un peu plus dotées qui vont contribuer à améliorer un quartier et donc faire elles-mêmes, à partir d'un revenu éventuellement extrêmement limité, faire un jour une plus-value non négligeable sur leur logement.
Donc voilà, les quartiers populaires, officiellement définis par la pauvreté, ont aussi énormément de richesses. Hein, c'est une identité. D'ailleurs, on l'a vu aussi à travers la musique, le cinéma. Et on rejoint même le double sens du mot populaire, hein, qui se rapporte au peuple, mais aussi qui plaît, aussi, il peut y avoir des choses qui plaisent. Voilà. D'ailleurs, le rap, hein, c'est aussi une des musiques les plus écoutées, qui est issue de ces quartiers-là. Alors maintenant, chers auditeurs, c'est l'heure de notre rubrique Flânosophie. C'est notre moment poétique inspiré des flâneries de Walter Benjamin, hein, d'ailleurs, qu'il a faite en se promenant dans les villes. Et c'est une rubrique écrite et lue par Michele Saporiti. Voilà, et aujourd'hui, il nous parle de la tortue.
Je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flânosophie. Aujourd'hui, on commence la troisième série de nos Flânosophies. Mais quelle merveilleuse surprise la vie nous réserve, n'est-ce pas ? Et l'invitation est toujours la même. Prenez votre temps. Éloignez encore pour un instant votre portable. Flânosophie, c'est avant tout nous accorder le luxe de l'écoute. Et pourquoi pas l'opulence de la fantaisie. Tout d'abord, rappelons-nous ce qu'est la flânosophie. Elle est la quasi-science du divertissement intellectuel, la pratique plutôt benjaminienne de flâner dans tout ce qui procure un plaisir intellectuel. Et cette troisième série de flânosophie ne commence pas avec l'exploration d'un espace. C'est les temps qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, et un temps très précis, cher flânosophe, le temps des tortues. En flânosophie, mais disons aussi en philosophie, qui dit tortue dit Achille, et qui dit Achille et la tortue dit Zénon et son fameux paradoxe. Est-ce que je dois spoiler le paradoxe ? Oui, je vous prie de m'excuser. Achille n'atteindra jamais la tortue qui se trouve devant lui. Mais nous ne sommes pas ici pour expliquer les bizarreries de ce disciple de Parménide qui affirme également qu'une flèche ne bouge pas. Nous sommes ici pour interroger sa tortue, qu'on appellera Zénonine, justement en hommage à Zénon, et on va essayer de comprendre comment elle expérimente le mystère du temps. Si l'on réfléchit bien, c'est la structure même du corps de la tortue qui lui permet d'expérimenter les différentes dimensions du temps et qui permet peut-être à nous aussi de partager une telle expérience. Avant tout, Zénonine, notre tortue, possède la carapace, cette armure qui la suit partout et qui est toujours au-dessus d'elle. Le temps carapace devient perceptible dès que quelque chose nous oblige à nous arrêter, car il devient le seul lieu pour se réfugier, pour trouver une protection. Dans la carapace de Zénonine, le temps n'est ni long ni rapide, ni long ni court. Le temps de la carapace est le temps, pour ainsi dire avec Nietzsche, de l'éternel retour, mais à nous-mêmes, car dans nos vies, on revient souvent à ce temps suspendu que la tortue connaît très bien et nous-mêmes avons la tendance à oublier. Ensuite, Zénonine possède aussi une queue. Elle n'a pas la capacité de l'avoir et n'a jamais eu une telle capacité. Mais toute tortue a bien conscience d'avoir une queue et qu'elle existe. Les temps queue et les temps du passé et des souvenirs, composés au simple, ce passé toujours derrière nous, toujours avec nous si on garde la capacité de bouger la queue du temps. Et enfin, cher philosophe, Zénonine a quatre pieds et une tête qu'elle peut bien allonger. Et si le pied marque le temps de mouvement, le temps présent qui s'échappe bien plus vite qu'Achille, c'est avec la tête que Zénonine cherche à voir ce qui l'attend. Vous aurez deviné que si le temps queue est le temps du passé, le temps tête est le temps du futur imminent, un temps verbal que seulement les tortues utilisent. Le futur imminent est le temps qui demande la lenteur, ni présent ni passé. Il indique une temporalité lente qui demande la lucidité du présent et la mémoire du passé pour s'orienter vers ce que nous souhaitons. Voici alors les temps de notre tortue Zénonine, cher philosophe. Et si la distance qu'Achille ne franchira jamais était celle de la sagesse du temps et non celle de la vitesse du pied? À la prochaine, philosophie.
Alors, un grand merci à Michele Saporiti pour cette belle philosophie sur la tortue qui a son propre habitacle, son propre rapport à l'espace et au temps et qui ne se soucie guère des quartiers populaires. Voilà, nous enchaînons avec notre traditionnel questionnaire parationnel. De quoi s'agit-il, Nathalie ?
Alors, un ensemble de questions. Il ne faut pas du tout réfléchir, Éric Almelin, pas du tout. Je sais, c'est dur pour vous comme pour nous. Voilà, et il faut répondre très très vite. Alors, première question, quel est votre rêve d'enfant ?
Mon rêve d'enfant, je ne sais pas si c'était de faire de la politique ou du cinéma, mais la sociologie est venue plus tard.
Voilà. Deuxième question, quel est votre plus grand espoir ?
Mon plus grand espoir, je ne suis vraiment pas préparé à ce genre de questions.
c'est le but.
Mon plus grand espoir pour les villes, c'est d'arriver à la qualité de vie pour tous, un petit idéal utopique.
Ouais. Alors d'ailleurs, si vous étiez Premier ministre, quelle première décision aimeriez-vous prendre ?
Vous ne voudriez pas me mettre plutôt ministre de l'habitat ou alors, de l'aménagement du territoire ?
Voilà, ministre. Alors, déjà, vous vous convertissez en ministre de l'aménagement du territoire. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous décidez ?
Au hasard, parmi plein de choses qui pourraient être faites, là, c'est un peu plus loin de la question des villes, mais c'est la question de l'équilibre des territoires. Je stopperai tout démantèlement de voies ferrées pour pouvoir envisager une desserte. Et restaurer la desserte ferroviaire, à mon avis, assez fine de tout le territoire français. J'investirai à fond sur les transports en commun, sur tous les types de territoires. Parce qu'on a des problèmes quand même de... Enfin, on a des inégalités aussi territoriales et des difficultés des quartiers, je l'ai dit tout à l'heure, des quartiers défavorisés dans les territoires ruraux aussi, et les villes petites et moyennes.
Tout à fait. Alors, je suis trop long. J'enchaîne. Quel personnage auriez-vous aimé rencontrer et pour lui dire quoi ?
Personnage j'aurais aimé rencontrer
dans n'importe quel domaine, hein. C'est pas fermé à notre thème. Hein.
J'ai le droit à combien de temps de
tout
laisser
suite,
venir
immédiat,
l'imagination
sinon je passe.
Alors je sais pas, disons François Mitterrand. Ah. Pour remonter dans quelqu'un qui a été un peu dans les premières périodes des politiques de la ville.
Ok.
Et ouais, pourquoi pas, je lui demanderai de... Oui, comment leur est venue l'idée de développer toutes ces politiques urbaines pour les quartiers prioritaires.
Alors, pour finir, sur ce questionnaire, qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse ?
J'ai envie de dire à la jeunesse, participer.
Très bien. Voilà, participer. On n'a pas assez parlé de Carticipe, d'ailleurs. Cet outil numérique. Bon, chères auditrices, chers auditeurs d'Aligre FM, nous arrivons à la fin de notre émission Philosophie au présent. Je remercie à la technique Armand Gury, Séphraim, qui ont complètement assuré et qui
merci.
Ont merci beaucoup et qui merci ont permis beaucoup. La réalisation de cette émission. Je remercie aussi chaleureusement notre invité Éric Hamelin, sociologue en urbanisme, qui nous a montré d'abord qu'un sociologue ne fait pas qu'étudier la société, mais qu'il contribue à l'améliorer. Voilà, Éric Hamelin nous a expliqué comment habiter les quartiers populaires à partir de son expérience, notamment au sein de son agence, qui s'appelle le Repérage Urbain. Je rappelle le nom du livre que je recommande vivement, qu'il a coécrit avec le journaliste Olivier Rasmont, « La tentation du bitume, où s'arrêtera l'étalement urbain », édition
superbe.
Rue de l'Échiquier en 2012. Et nous avons utilisé pour faire cette émission un livre d'un philosophe, Alain Cambier, « Qu'est-ce qu'une ville ?», publié chez Vrin, Chemin philosophique en 2005. De toute façon, vous pourrez retrouver toutes ces informations avec notre podcast sur le site daligrefm.org. Notre prochaine émission en direct sur 93.1 aura lieu samedi 14 décembre 2024 à 16h. Nous recevrons, dans la continuité d'ailleurs avec notre problématique, le philosophe et directeur de programme au Collège international de philosophie Étienne Elmer, qui nous parlera de la pauvreté comme enjeu de la pensée. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt sur 93.1. Donc, un grand merci à vous, un grand merci Éric, un grand merci Nathalie Perrin.
Merci beaucoup à tous les auditeurs. Bonne journée à tous sur Aligre FM.